Bonjour à tous. Parole de Paul à Timothée. Nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 14, jusqu'à 4, verset 5, dans une version nouvelle français courante. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, je te le demande au nom du Christ qui va se manifester et de son règne. Proclame la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs mauvais penchants. Et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à l'annonce de la bonne nouvelle et accomplis jusqu'au bout ton service pour Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est dans la version seconde. Un verset qui faisait partie de la longue liste des versets bibliques que nous devions apprendre par cœur dans notre jeunesse. Mes parents, le dimanche matin, nous emmenaient à l'église mennonite de Pfastatt, où nous assistions à l'école du dimanche pour les enfants jusque vers 13-14 ans. Ensuite était prévu un temps d'un enseignement plus approfondi entre 15 et 17 ans, en général le samedi après-midi. Cet enseignement s'appelait l'instruction, en alsacien « Unterricht », ou pour être plus compréhensible, on l'appelait également le catéchisme. Cet enseignement était organisé par les anciens de l'Église pour nous apporter les connaissances bibliques de base, la première année et une deuxième année, avec un enseignement sur la vie chrétienne dans tous les domaines de la vie contemporaine. Certains sujets donnaient lieu à des échanges, voire même des discussions qui ont certainement aidé à éveiller notre foi, et pour certains, à prendre une décision personnelle pour suivre Jésus-Christ et rejoindre l'Église. 15-16 ans, c'est le début des années lycée. Nous étions en 1974-75, quelques années après mai 68. Une époque où l'autorité était contestée, des idées nouvelles devaient émerger, la liberté ne pouvait plus être entravée. Dans mes échanges avec des camarades de classe sur mes convictions liées à la foi chrétienne, je cherchais des arguments pour convaincre mes interlocuteurs que la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, délivre un message qui seul donne un sens à notre vie terrestre. Comme à l'époque, on apprenait à réfléchir et acquérir un sens critique par rapport aux idées reçues, citer ce verset de Paul à Timothée me paraissait un peu léger. Le livre qui dit de lui-même qu'il est inspiré de Dieu et par conséquent incontestable par nous les humains ne me semblait pas très convaincant dans l'argumentation pour inciter quelques camarades à s'intéresser au contenu de la Bible. Un samedi après-midi, courageusement, pour donner une occasion à notre enseignant de nous fournir des arguments convaincants pour notre témoignage auprès de nos amis lycéens, j'ai dû dire que ce seul verset que nous apprenons par cœur, mais qui fait partie du texte biblique, n'est pas suffisant pour rendre le texte biblique incontestable. J'ai dû rajouter que, comme pour la lessive, c'est pas parce que c'est écrit dessus que le nouvel homo lave plus blanc que je me sens obligé de l'acheter. Je ne me rappelle plus de la réaction immédiate de l'oncle Max, qui était notre enseignant. Mais je me rappelle que le lendemain matin, mon père a reçu une lettre de sa part qui le prévenait que j'étais un petit contestataire, insolent probablement, qui filait un mauvais coton, etc. et qu'il convenait probablement de me remettre les idées en place pour ne pas finir en perdition. Après coup, je réalise qu'en engageant le débat sur la légitimité de l'autorité de la Bible et de son contenu, j'avais remis en cause son autorité d'ancien qui dirigeait la communauté locale avec beaucoup d'engagement personnel et une foi biblique profonde et sincère. Cela ne l'empêchait pas d'exercer la discipline pour que la communauté ne soit pas éclaboussée par des comportements d'influence mondaine teintés de péchés apparents. Mon père a vite compris que mon intention n'était pas de renverser le pouvoir de l'ancien de l'Église et l'affaire n'a pas eu de suite. Le samedi suivant, ce cher oncle Max m'avait néanmoins préparé un dossier assez conséquent sur l'histoire de la constitution du canon biblique, Ancien et Nouveau Testament, et sur des données archéologiques, la découverte des manuscrits de Qumran et autres écrits historiques qui confortent de la réalité historique d'événements décrits dans le texte biblique. L'oncle Max, après son coup de sang suite à ma question quelque peu provocante, sans doute avait bien répondu à mes préoccupations. Et quelques années plus tard, il a pu procéder à mon baptême, suite à ma confession publique de ma foi en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur de ma vie. Voilà pour la petite histoire autour de ce verset. Je raconte mes souvenirs, voilà que je suis devenu vieux. Revenons à un peu plus de sérieux. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lorsque Paul écrit cela à Timothée, il parle de façon évidente de l'Ancien Testament, le Premier Testament pour certains. C'était à l'époque les Saintes Écritures que Timothée connaît dès son enfance et qui ont pu le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit au verset précédent, au verset 15. Grande découverte. Paul ne valide pas ses propres écrits avec des prises de position dictées par des situations locales particulières dans les nouvelles communautés chrétiennes du 1er siècle, mais il affirme avec autorité que tous les textes de l'Ancien Testament ont de l'importance pour conduire à la foi en Jésus-Christ. La lecture de la Bible donne un sens à notre vie, et si on se contente uniquement de l'élément central du Nouveau Testament qui révèle que Jésus, le Fils de Dieu, nous a rejoints dans notre humanité, que par obéissance il a souffert jusqu'à la mort sur la croix pour finalement ressusciter et nous accueillir dans la présence du Père Céleste par notre foi. C'est l'essentiel, et cela fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le salut nous est offert et nos péchés liés à notre humanité sont pardonnés. C'est une démarche que seule la foi permet de concevoir. Mais cette révélation ne m'aide pas à trouver du sens à ma vie terrestre, sans vouloir vous choquer. Nous sommes actuellement dans la période dite de l'Avent, très exactement le deuxième dimanche de l'Avent, dans cette période de l'année qui annonce Noël, le jour où Jésus vient au monde à Bethléem. C'est le moment où l'on reprend les textes qui annoncent la naissance de Jean, le fils de Zacharie et Élisabeth, et l'annonce à Marie qu'elle a été choisie pour mettre au monde Jésus, l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Cela nous arrange pas mal dans cette période de l'année où les jours sont courts et que le battage médiatique et commercial à l'approche de Noël nous accapare. Cette période de l'Avent, qui annonce la venue du Messie, est en réalité, d'après le texte biblique, beaucoup plus long que cela. La période de l'Avent débute avec la promesse de Dieu faite à Abraham. Dieu a prévu d'apporter la bénédiction, le salut, à toutes les nations de la terre à travers ce peuple qu'il a choisi et qui lui appartient. L'Ancien Testament est semblable à un voyage avec une destination et un objectif conduisant tout entier à Jésus-Christ. C'est un récit de promesses et d'espérance jusqu'au sein du mal et du péché persistant. Une citation de Christopher Wright. L'Ancien Testament, après le récit de la création de l'univers et de l'espace-temps, suivi de la révolte des humains contre Dieu, le Créateur, et l'irruption du péché et du mal au cœur de cette création, l'Ancien Testament nous raconte la promesse de rédemption, de rachat du péché, la promesse que Dieu veut remettre les choses en ordre pour l'humanité et toute la création. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les auteurs divers et variés qui ont écrit les textes étaient inspirés. les personnes qui ont choisi de rassembler les textes dans un livre qu'on appelle l'Ancien Testament ont été inspirées. Les personnes qui ont passé leur vie à recopier ces textes anciens pour qu'ils arrivent jusqu'à nous ont été inspirées. Ceux qui traduisent la Bible pour que le texte soit accessible à la compréhension de tous les peuples sont inspirés. Alors, ne négligeons pas le contenu de ces textes. Ils sont utiles pour enseigner. Jésus a largement et abondamment cité les textes de l'Ancien Testament et, dès l'âge de 12 ans, il est resté au temple pour se familiariser avec le contenu de ces textes lorsqu'il a été tenté. Il a répondu par des citations des Écritures saintes et au cours de tout son ministère jusqu'à la croix et après sa résurrection, Jésus souligna que les Écritures devaient s'accomplir. Toute Écriture est utile pour convaincre. La Bible nous donne des arguments pour convaincre que le projet de Dieu pour les hommes est un projet de bénédiction, de restauration de la création, de rédemption. Le monde dans lequel nous vivons essaye de nous convaincre que l'idée de Dieu crée plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. C'est la laïcité qui est mal comprise. Le monde essaye de nous convaincre que la science et la technologie trouvera les solutions pour assurer notre avenir. Mais la science ne fait que répondre à des questions précises sans se soucier si la découverte, la compréhension du phénomène contribue au bien ou au mal de l'humanité. La technologie, au final, ne sert qu'à accélérer et amplifier l'accumulation et la concentration des richesses. Les Écritures nous mettent en garde contre les faux espoirs, l'idolâtrie, les illusions de la puissance humaine apparente. Toute Écriture est utile pour corriger. Nous avons tous besoin d'être corrigés, y compris dans notre façon de comprendre et de nous approprier le texte biblique. En allant trop vite, on néglige l'apport de l'Ancien Testament qui nous révèle qui Dieu est. Tout de suite, on entend l'apôtre Paul qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et on balaye d'une main toutes ces règles écrites dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qui étaient simplement destinées à rendre la vie agréable, centrée sur l'obéissance à Dieu, à organiser la nation d'Israël pour être en bénédiction pour les nations alentour. La loi de Dieu n'a pas été écrite pour priver les hommes et les femmes de liberté, ni pour donner des occasions de sanctionner et de condamner. La loi a été écrite pour le bien des humains. Jésus lui-même, lorsque les disciples ont cueilli des épis le jour du sabbat, déclare que, en Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Cela ne veut pas dire qu'à partir de Jésus, la loi ne doit plus être respectée, mais bien que la loi doit être bien comprise. Travailler 6 jours et se reposer le 7e est un rythme qui permet à nos corps d'éviter l'épuisement. Nous avons besoin d'être corrigés dans notre façon de comprendre la Bible. L'apôtre Paul, dans ses lettres aux églises, aborde des sujets liés au contexte local et donne des conseils pour que les églises puissent croître en maturité pour être en mesure d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Souvent, nous avons entendu que ces conseils, sur la place des femmes dans la communauté, les tenues vestimentaires, voire même les coupes de cheveux, sont devenus les nouvelles lois qui remplacent la loi de l'Ancien Testament. Heureusement que toute écriture est utile pour corriger. La loi de l'Ancien Testament prévoit la redistribution des richesses, la libération des esclaves, la protection des veuves et des étrangers, l'exercice du pouvoir sous contrôle, la condamnation de l'idolâtrie et la place de Dieu au centre de la vie sociale et culturelle avec un calendrier de fêtes et de commémorations où Dieu est présent. Rien à voir avec les quelques conseils de Paul pour améliorer le fonctionnement de quelques églises au début du christianisme. Toute écriture est utile pour instruire dans la justice. La justice de Dieu, c'est de dénoncer, condamner le mal, tout ce qui est mal, et de montrer ce qui est bien, bien pour l'individu, bien pour le groupe, la communauté. Lorsque Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, se sont rebellés contre l'autorité du Créateur, tous les humains ont reçu cette connaissance du bien et du mal au fond d'eux-mêmes. Nos raisonnements, souvent très artificiels, cherchent à justifier ce qui de toute évidence est mal. La violence, c'est mal, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou des manifestants. La guerre, c'est mal, que ce soit sur notre territoire ou à l'extérieur. Au fond de nous-mêmes, nous avons la connaissance du bien et du mal, mais les Écritures sont là pour nous instruire dans la justice selon Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est là le but de notre existence, c'est là le sens de notre vie, vivre en conformité avec ce que Dieu demande. Pour conclure, toute écriture est inspirée de Dieu, cela veut bien dire que Dieu est l'acteur principal et permanent du récit biblique. Si nous choisissons par la foi d'entretenir une relation avec Dieu, nous pourrons avancer dans notre relation avec lui en étudiant les écritures du début jusqu'à la fin. Et là, nous découvrons notre histoire, l'histoire de l'humanité, qu'on peut segmenter en 6 séquences. Premièrement, la création par Dieu du ciel et de la terre, où tout est bon et la vie harmonieuse et paisible. Deuxièmement, la révolte des humains contre l'autorité de Dieu et la désobéissance qui amène directement la violence, la mort, le péché et le dysfonctionnement du monde terrestre. Troisièmement, la promesse de Dieu faite à Abraham, la bénédiction de sa descendance qui devient le peuple d'Israël et la bénédiction pour toutes les nations de la terre. Pour cela, Dieu donne sa loi, Dieu donne la terre promise, Dieu, à chaque génération, tend la main pour relancer le processus jusqu'à la venue de Jésus. Quatrième séquence, l'Évangile, le cœur de toute la trame biblique, la venue de Jésus, Dieu incarné, Dieu qui nous rejoint dans notre humanité pour nous amener à une nouvelle compréhension de la loi de Dieu et qui accomplit jusqu'au bout sa mission pour sauver les hommes et les femmes. Cinquième séquence, la mission de l'Église chrétienne, avec l'aide du Saint-Esprit qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte, et la mission de l'Église d'apporter la bonne nouvelle vers toutes les nations de la terre. Nous faisons partie de cette histoire. Nous vivons dans cette cinquième étape de l'histoire de l'humanité. Nous faisons partie de cette Église qui doit devenir visible au cœur des nations en proclamant la paix, la justice, l'amour. Pour être plus concret, il nous appartient de dénoncer la violence, de travailler à la résolution des conflits, à dénoncer le système de concentration des richesses pour soulager la pauvreté et la misère, d'accueillir nos prochains, quelle que soit leur origine géographique et ethnique, sans crainte, avec le même amour que Jésus a manifesté pour nous. La sixième séquence, la nouvelle création, le retour de Christ. Dieu interviendra quand le temps sera venu pour épurer et restaurer la création. Ce sera un nouveau commencement et non la fin du monde. Ce sera la fin du monde du péché, du mal et de la rébellion contre Dieu. Ce sera pour toutes les nations de la terre la fin des souffrances, de la malédiction et de la mort pour toujours. Notre vie n'est pas absurde, notre vie a du sens. Les Écritures saintes, notre Bible, nous éclairent et nous aident à faire des choix qui nous permettent de devenir acteurs dans le projet de Dieu. Projet de bénédiction pour nos vies et nos nations. Amen.